du jazz.
D'hier et d'aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Paris, 2 juillet 1948. 33 rue Dauphine, Hôtel d'Aubusson. La cave de l'Hôtel d'Aubusson s'appelle alors le Tabou.
Voici l'animateur du lieu, l'âme damnée des lanceurs de mode, le romancier scandaleux de J'irai cracher sur vos tombes, j'ai nommé M. Boris Vian.
Si vous me permettez cette question, pourquoi avez-vous choisi Saint-Germain-des-Prés pour vos exercices musicaux? Parce que je crois que vous aimez sincèrement et profondément et passionnément la musique de jazz.
Oui, ça c'est une de mes manies, mais vous savez, il y a guère que cet endroit-là où on puisse faire de la musique de jazz et conserver un public, parce que... Prenez la Bastille, par exemple. À la Bastille, si vous jouez autre chose que de l'accordéon, vous faites tuer. Aux Champs-Élysées, si vous jouez autre chose que de la musique douce, vous faites tuer. Et dans les autres endroits en général, si vous jouez autre chose que des sambas, vous faites tuer. Il ne reste guère que Saint-Germain-des-Prés.
Alors d'avoir le public que vous avez, vous dites tant mieux, tant pis, ou si ça vous est égal?
Ah, moi je dis tant mieux, parce que c'est un public qui apprécie cette musique-là et qui revient après l'avoir entendu. C'est tout ce que nous lui demandons, c'est de pouvoir continuer le plus longtemps possible.
Mais vous parlez d'or, enfin, sagement, raisonnablement, enfin, de manière à me surprendre encore davantage. Mais entre nous, il n'y a pas parmi votre public des gens qui sont là, m'ont dit, pour faire foule et parce que c'est la mode?
Si, il y a beaucoup de gens qui sont là parce que c'est la mode. Il y en a qui viennent voir ce que c'est et qui ne reviennent pas. Il y en a qui viennent voir ce que c'est et qui reviennent.
Mais vous, M. Boris Vian, votre ambition personnelle, à vous, quelle est-elle?
Alors, moi, c'est conserver un endroit où je puisse, avec mes camarades, faire le plus longtemps possible la musique de jazz sans concession.
Mmh. Et vous n'avez pas eu trop de malheur jusqu'ici avec les habitants du quartier?
Oh non, à part quelques sourdeaux sur la tête, des têtes de poisson pourri, des tomates, enfin des choses comme des choses plutôt nourrissantes d'ailleurs.
Mais il faut souffrir pour l'art.
Ah, il faut souffrir pour l'art.
Vous aurez compris que l'émission d'aujourd'hui va être consacrée à honorer la mémoire de Boris Vian.
Et on a une bonne raison pour ça, parce que c'est le centenaire de la naissance de Boris Vian. Vous le croiriez pas, hein ?
Non, d'autant plus qu'il est mort fort jeune, ayant mené un grand nombre de vies parallèles, dont le cumul pourrait atteindre 2 ou 3 siècles, il s'est éteint à 39 ans, comme Fats Waller.
Et il a mené une vie vraiment incroyable.
Plusieurs. Il a été ingénieur.
Musicien.
Compositeur.
Parolier.
Traducteur.
Traducteur, il faut savoir qu'il n'avait jamais appris l'anglais.
Il a aussi été chroniqueur, surtout chroniqueur de jazz.
Écrivain.
Scénariste.
Acteur. Ah bah oui, ça ne pouvait pas être autrement.
Directeur artistique, auteur d'opéra, auteur de ballet. Et figurez-vous que... En tant qu'ingénieur, retournons au début, il sortait d'une école qui n'était pas n'importe laquelle, puisqu'il était centralien. Et Boris Vian, qui était un surdoué intégral, avait eu le bac, passé les prépas, réussi le concours de centrale à l'entrée, réussi le concours de centrale à la sortie. Tout ça sans rien faire, mais rien faire, absolument rien.
Si, il avait quand même une activité. Il organisait des tas de surprises parties, des booms de folie, avec tous ses amis et... C'était la fête, c'est tout. La fête au maximum.
Il avait un sens suraigu de la fête. Alors, surprise party, attention, hein, c'était quand même à raison de 1 ou 2 par semaine. Sur la carrière d'ingénieur de Boris Vian, donc au début de son parcours, sorti de centrale, il entre à l'AFNOR. L'AFNOR, c'est l'organisation qui définit les normes de tout. On met tout en ordre. Évidemment, Boris Vian atterrissant dans ce contexte, ça devient pas mal.
Là, il faut qu'il fasse quelque chose. En plus, quand on pense à Boris Vian, qui est l'homme le plus hors norme, on se demande ce qu'il fait là. Bref, il a trouvé quelque chose. Il va faire une norme des insultes, avec une gravité pour telle insulte, à plus c'est plus grave pour une autre, etc. Il fait ça très très sérieusement.
Il y a un rapport extrêmement détaillé, avec tableau récapitulatif, avec une entrée pour ceux qui profèrent l'insulte et une autre entrée pour ceux qui les reçoivent, car ce n'est pas le même coefficient. Enfin bref, à l'AFNOR, il devient une sorte de Gaston, parce qu'on a inventé d'autres, comme ça. Et par-dessus le marché, il corrige les fautes de français de ses supérieurs, quand il en trouve dans les projets de rapport.
Alors, je peux vous dire que là, ça ne plaît pas du tout.
Ah non, alors là, pas du tout. Il préfère donner suite à une autre proposition. Figurez-vous qu'il y a en France, à cette époque-là, donc juste après la guerre, un office des papiers et cartons.
Les papiers et les cartons étaient devenus très rares pendant la guerre, hein.
Eh oui, il fallait une permission pour imprimer un bouquin, hein. Il fallait trouver du papier. Et là, il y a un directeur technique.
Et alors, la caractéristique de ce directeur technique, c'est qu'il ne fait absolument rien. Il n'a rien à faire. Rien.
C'est, voilà. C'est une sinécure. C'est l'exemple de la sinécure. Et bizarrement, la direction générale prie le directeur technique de bien vouloir se recruter un adjoint.
Que pensez-vous que va faire l'adjoint ?
Qui est naturellement Boris Vian, puisque le directeur technique est un copain.
Il ne fait rien d'autre que d'écrire des livres. Il lit beaucoup et il écrit ses livres à lui. Formidable. Il est payé pour ça.
Remarque, j'ai eu un copain comme ça qui était directeur général d'un organisme très important. Et un jour, je lui dis, mais alors finalement, qu'est-ce que tu fais ? Et il m'a répondu, rien.
Ne rêvez pas tous, c'est fini cette époque. Hein ?
Ah oui, ça c'est bien fini. Alors, naturellement, il y a tellement de choses à raconter sur Boris Vian qu'on y passerait la semaine. Comme nous produisons une émission de jazz, il sera ici question de Boris Vian et du jazz.
Bah oui, oui. Et ça a été une très, très importante partie dans sa vie de folie.
Bon, je crois que ça a été la principale même. Parce que quand même, toute sa vie a été pilotée par le jazz. Et alors, en jazz, il avait le goût extrêmement sûr. Il avait compris que le jazz est la musique des Noirs américains. Et il disait d'ailleurs volontiers, on le retrouve dans un de ses livres, que beaucoup plus tard, il ne restera que la musique de la Nouvelle-Orléans et celle de Duke Ellington, parce que tout le reste est laid. Il a eu avec les Américains et le jazz des rapports extrêmement réalistes que nous pouvons d'ailleurs confirmer, parce que nous avons un peu vécu les mêmes choses avec le public américain. Un de ses meilleurs amis, presque son alter ego, puisque ça a été son batteur pendant tout le long de sa vie musicale, qui s'appelait Claude Léon, raconte comment il voyait les choses.
Nous aussi, on croyait, mais avec Boris, et nous en avons parlé souvent, nous nous sommes vite aperçus que l'Amérique n'était pas du tout le pays de la connaissance encyclopédique du jazz. En fait, de jazz, les Américains étaient d'une inculture totale. Et nous, nous avions une morale. Notre morale consistait à refuser d'exécuter les morceaux qui ne nous plaisaient pas. Nos sacrés G.I. nous réclamaient toujours Bezem, Mucho et autres grands saucissons de l'époque. Boris répliquait « Non, nous ne jouerons pas Bezem, Mucho, nous jouerons Duke Ellington. » Et finalement, ça s'arrangeait très bien. Et tout le monde était content. Les soldats dansaient et nous, nous jouions notre musique.
perçoit très bien les goûts personnels de Boris Vian et sa culture historique du jazz, justement. Quand on regarde le catalogue d'une série célèbre de micro-sillons, des petits 25 cm qui nous ont servi, quand nous étions très jeunes, à découvrir le jazz. Parce qu'à l'époque, il y avait deux séries de jazz de ce genre-là. Il y avait celle de Boris Vian chez Philips, qui s'appelait Jazz pour tous, et celle d'Hugues Panassier chez RCA, qui s'appelait Jazz Classics. Et dans cette série Philips Jazz pour tous, qui a comporté 24 volumes, dont 22 du vivant de Boris Vian, il n'y a que du bon jazz, d'un bout à l'autre, qui swing, qui parle, et du meilleur.
Non seulement il les produisait, mais en plus, il écrivait, avec le talent de Boris Vian lui-même, il écrivait des textes de pochette superbes.
Pour vous en donner une idée, nous allons vous passer trois morceaux qui nous ont frappés à l'époque, que nous avons encore en tête, et même dans les oreilles, que nous connaissons encore par cœur. Trois morceaux tirés de trois des fameux 25 cm, Jazz pour tous. Nous allons faire comme Boris Vian, nous allons vous donner les titres en français. Le premier morceau, c'est « Je le dirai à personne », de King Oliver.
Le deuxième, c'est « Le blues de l'homme sauvage »,
par le Hot Seven de Louis Armstrong. Et le troisième, c'est « Le blues de la rue Perdido », par un petit orchestre qui était en fait celui de Louis Armstrong, mais où Louis Armstrong, indisponible, avait été remplacé par un excellent cornettiste qui s'appelait George Mitchell. Naturellement, pour l'authenticité du geste, nous avons tenu à vous passer les disques d'époque, ceux-là même à travers lesquels nous avons découvert tant de choses. Alors évidemment, ça gratte un peu, mais c'est comme ça. Et je peux vous dire qu'en tant que directeur artistique, Boris Vian avait parfois la dent dure. Écoutez plutôt ce qu'il écrit à la direction générale à la suite d'une suggestion qu'on lui a faite d'éditer un musicien américain nommé Dave Brubeck. Vous connaissez Dave Brubeck ? Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà ce que Boris Vian leur répond.
Je peux vous dire qu'il mâche pas ses mots. Hein. Plus j'écoute ce Brubeck, plus je trouve que c'est une sous-merde pas croyable. Je refuse d'engager ma responsabilité sur cette abominable chose qui n'a aucun rapport avec le jazz. Je, sous-signé, déclare que vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais qu'on n'en vendra pas 50. Et encore, et je rends mes billes sur ce point précis, pas de Brubeck dans notre série de jazz, sinon on est déshonoré.
Alors maintenant que vous connaissez ses goûts, vous allez pouvoir entendre comment il les transposait en musique.
Boris Vian, lui, soufflait dans tout ce qu'il pouvait, mais quand même qu'il avait plus ou moins une allure de trompette. Il jouait de la trompette, il jouait aussi de la trompinette, et puis, bien sûr, hein, du cornet.
Alors la trompinette, c'est un instrument impossible, je peux vous en témoigner, d'une raideur absolument totale. Je crois qu'il s'en est surtout servi pour faire un gag. Alors Boris Vian, contrairement à une réputation de fantaisiste qui est tout à fait injustifiée, jouait tout à fait bien de la trompette. Il a commencé sa carrière de musicien au sein de l'orchestre de Claude Abadie et pendant la guerre. Nous sommes en l'an de grâce 1943, ce qui est d'ailleurs notre année de naissance. Et bien lui, il avait déjà 23 ans, toutes ses dents et une belle trompette à sa disposition. Claude Abadie, c'est un orchestre de musiciens amateurs qui se proclament amateurs et qui jouent absolument comme des enragés, à tel point qu'ils ont raflé pas mal de prix et qu'ils ont commencé à se faire voir de travers par le milieu professionnel.
C'était un orchestre franchement particulier. D'abord, ils ne jouaient pas forcément dans les grandes salles. Non, non, très souvent, ils se produisaient dans des surprises parties ou dans des petits clubs. C'était un orchestre qui n'avait pas vraiment de prétention, juste le désir de se faire plaisir, de s'éclater. Il leur est arrivé quelquefois, quand les gens n'étaient pas très sympas avec eux, parce que ça pouvait être aussi, de répondre du tac au tac.
Que oui, nous avons une histoire en tête là-dessus. Figurez-vous qu'un jour, à une soirée, au moment d'aller se faire payer, on leur retient de l'argent sur le cachet convenu.
Ouais, mais vous avez pas joué assez de notes, vous avez joué retenu. Alors on vous retient l'argent.
Boris Vian a réuni ses copains et leur a dit, mais c'est très simple, puisqu'on nous retient de l'argent, nous on va retenir des notes. Voilà, on leur laisse pas toutes nos notes. Ils sont allés au piano, ils ont pris 3 touches de piano, ce qui a rendu le piano évidemment totalement injouable, surtout que c'était un très beau piano, paraît-il, et ils sont partis avec. Voilà. Ils étaient comme ça. Maintenant, vous avez sans doute envie de les entendre. Eh bien, voici 3 morceaux de l'orchestre de Claude Abadie, avec Boris Vian à la trompette. Et vous verrez qu'il est tout à fait dans l'école Bix Beiderbecke.
I found a new baby, Jasmine Blues et Tin Roof Blues.
Nous sommes en 1945.
Thank you.
Vous vous demandez peut-être qui est l'excellent saxo alto que vous venez d'entendre dans ces morceaux, d'ailleurs un petit peu partout également dans cette émission. Il s'agit de Hubert Foll. C'est le grand frère de Raymond Foll et comme il emmenait son petit frère partout, et bien en même temps que Hubert Foll, vous entendez Raymond Foll au piano. La grande époque de Boris Vian, c'est quand il ouvre une boîte à Saint-Germain-des-Prés, où a eu lieu l'interview qui commençait notre émission, qui s'appelait Le Tabou.
Dans sa série d'émissions sur le jazz au quartier latin, le préf d'essai de la radiodiffusion française vous présente aujourd'hui l'orchestre du Tabou.
Ah, si j'avais un franc 50, j'aurais bientôt 2 francs 50. Ah, si j'avais 2 francs 50, j'aurais bientôt 3 francs 50. Ah, si j'avais 3 francs 50, j'aurais bientôt 4 francs 50. Ah, si j'avais 4 francs 50, ça serait bientôt 100 sous.
Les habitués du Tabou auront certainement reconnu l'indicatif de Boris Vian.
Alors là, il y avait une sorte de mélange de fausse Afrique, de jazz, de vrai jazz. Et là, se retrouvaient des gens absolument inoubliables. Il y avait Juliette Gréco, bien sûr. Il y avait Jean-Paul Sartre.
Et Simone de Beauvoir.
Évidemment, qui le suivait comme son ombre.
Il y avait un tas d'artistes, il y avait même quelquefois Brigitte Bardot. Enfin, il y avait absolument le tout Paris intellectuel qui, pendant la journée, se retrouvait aux deux magots à l'air libre, se retrouvait le soir en souterrain dans la cave du Tabou.
Et ça dansait. Hein.
C'est une époque où on danse beaucoup. Là, nous sommes en 1947 et nous vous renvoyons à un film très célèbre de Jacques Becker.
Les Rendez-vous de Juillet. Effectivement, la danse avait été interdite par les Allemands. Et ça faisait 4 ans que les jeunes, eux, ils en avaient été privés. Alors là, ils s'y jetaient dans la danse.
Ah oui, il y a quelques années particulièrement épiques et agitées et trémulantes. Et il en reste quand même quelque chose. Alors voici l'orchestre de Boris Vian, enregistré au Tabou en 1947 donc. Le blues de la rue du Bassin, avec un très joli exposé de trompette. Et vous remarquerez que le trompettiste a fait évoluer son style et qu'il tire un peu maintenant sur Rex Stewart. Pas étonnant, puisque en 47, justement, 47-48, Rex Stewart est venu jouer en France.
Bye.
C'est aussi une époque où les orchestres voyagent beaucoup, puisque la musique directe est extrêmement demandée, contrairement à ce qui se passe maintenant, hélas, où il y a beaucoup trop de musique enregistrée. Bon, ça c'est une parenthèse, et l'orchestre se retrouve en Belgique.
Alors là, en Belgique, il y a un problème, c'est qu'ils sont payés en francs belges, et que les francs belges, ils n'ont pas cours en France. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Mais il faut qu'on le dépense ici. Et là, ils se disent, quoi acheter? On va quand même pas manger tout notre truc. Et il y a quand même, c'est la suite de la guerre, hein. En France, il y a pénurie de beaux tissus. Et par contre, en Belgique, les tissus sont peu chers et superbes. Ils se disent, oh là, on va acheter des tissus pour nous habiller, habiller nos femmes, ça va être génial. Oui, mais attention. C'est qu'il y a les douanes. Il fallait payer très cher.
Mais la douane, à l'époque, ce n'était pas une rigolade. Hein. Je me souviens personnellement, quand j'étais tout petit, de passages de frontières où tous les bagages de tous les automobilistes étaient sortis des voitures, sous le contrôle des douaniers, posés sur une table à l'intérieur du bâtiment, ouverts, fouillés dans tous les sens. Et après, on sortait par l'autre porte pendant que la voiture vous rejoignait et puis on pouvait partir de l'autre côté. Et c'était hyper contrôlé dans les trains, c'était terrible. Et là, justement, ils sont dans le train pour rentrer.
Et là, il n'y a qu'une solution pour passer en fraude, ces tissus, il faut les mettre dans nos instruments pour que ça ne se voit pas. Alors, dans la grosse caisse, il n'y a pas de problème, on se débrouille, on en met autant qu'on en peut. Et puis, il y a un instrument qui a beaucoup de volume, mais ce n'est pas facile de mettre quelque chose dedans, c'est la contrebasse. Et ils ont commencé à enfourner par je ne sais quel moyen le plus de tissus possible dans la contrebasse.
Après quoi, ils ont pris le train. Dans le train, ils ont été contrôlés. Les douaniers ont vu les instruments de musique, ils ont tapoté dessus parce que ça leur faisait un gag pour faire comme s'ils faisaient un peu de musique, poum poum, avec la grosse caisse. Et puis après, ils sont arrivés à Paris, ils se sont trouvés sur le quai, recontrôle, ça s'est bien passé. Ils se sont trouvés chez eux, alors là, ils racontaient après que la plus grosse difficulté avait été de retirer le tissu de la contrebasse. Tu sais que Boris Vian a été l'inventeur du mot « tube » pour désigner un grand succès de variété. Parce qu'avant, on disait « saucisson ».
Oui.
Puis un jour, à un conseil d'administration, il a dit « Oh, écoutez, la barbe avec ce mot saucisson, c'est sale. Moi, j'en ai un autre à vous proposer. On dira tube. » Alors, ils ont fait c'est un peu ce qu'il fallait pour en parler à droite, à gauche, etc. Et puis, le mot est passé. Maintenant, le tube a remplacé le saucisson. Moi, je suis un peu triste parce que j'aime bien le saucisson. Enfin bon. En tant que parolier et musicien et compositeur, Boris Vian a énormément travaillé avec Henri Salvador. Et Henri Salvador l'aimait beaucoup, et voilà ce qu'il en raconte, parce que, en fait, Henri Salvador, il était absolument béat d'admiration devant Boris Vian.
Pour parler de Boris Vian, il faudrait un temps fou, parce que ça n'est pas un homme dont on puisse faire un digest, ce qui veut dire un résumé, quoi. Il avait un trop gros cerveau. Il n'était ni d'hier, ni d'aujourd'hui, mais de demain. Il a écrit des livres, des romans, des opéras, des pièces de théâtre. J'ai eu la chance de collaborer avec lui. Il m'a appris bien des choses. Il avait une grande emprise sur moi. Une emprise très curieuse même. Quand il venait à la maison, il n'avait qu'à me regarder pour que je me mette à trouver des thèmes de chansons. C'était magique. Puis il prenait un crayon et il écrivait les paroles aussi vite que je composais la musique.
Arrangé et dirigé par Quincy Jones en personne, voici par Henri Salvador un des fruits les plus connus de cette collaboration.
Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents, oh là là. Je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un nommé Durand. Quel dentiste son état et qui pourra m'arranger ça? Oh, la salle d'attente est bourré de gens, et pendant que j'attends, oh, oh là là, sur un brancard passe un mec tout blanc porté par deux masters. Je me lève déjà pour foutre le camp, mais l'infirmier crie
au suivant. debout devant le dentiste. Je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste. Il a des tenailles à la main. Oh, maman, j'ai les guiboles en fromage blanc. Avant même que j'ai pu faire ouf, il me fait déjà sauter trois dents. En moins d'une plombe, mes pauvres molaires sont retournés dans leur tombe. Oh là là, voilà qui me plombe mes deux plus belles dents. Celle que j'ai par devant. Il me grille la gueule au chalumeau et il me file un bon verre d'eau. Il me dit il faut régler votre dette. Je venais d'être payé la veille. Ce salaud me fauche tout mon oseille et me refile 50 bananes. Oh, maman, et il ajoute en rigolant, je suis pas dentiste, je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraider. Oh, et moi je gueule ce soir le blues du dentiste dans le noir.
Maintenant qu'il n'y a plus de dents, qu'est-ce que je vais lui dire à ma pipi? Alors maintenant, me lève, reste plus.
Alors naturellement, il y a des musiques, des paroles de Boris Vian qui ont été jouées en jazz par des orchestres de jazz. Comme il organisait aussi beaucoup d'enregistrements, voici un extrait d'une séance du jeune Claude Bolling avec son orchestre de l'époque. L'orchestre s'appelait les Dixiphones. Oui, l'après-midi d'un faune en quelque sorte. Le morceau de Boris Vian donc s'appelle « Oh, c'est divin ».
C'est bien. Ce petit pianiste est vraiment plein d'appui.
Vous avez vu cette grille et cette main droite? Ah, la gauche aussi, oui. Ah, enfin, c'est bien, quoi, en un mot, c'est divin. Ah, c'est divin, 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 divin.
Formidable.
Oui, oui, ah.
Thank you.
cet homme-là, au fond, Boris Vian, c'est un homme intemporel, parce que cette espèce d'extraordinaire liberté d'esprit, de musique, a fait que même des jeunes de maintenant s'intéressent à des livres qui ont été écrits quand même il y a plus de 70 ans.
L'écume des jours, par exemple, ou l'arrache-cœur. Et paradoxalement, son bouquin le plus connu est une sorte de canular, mais de canular assez sérieux, car il avait décidé d'écrire un livre sur le racisme. Le livre raconte l'histoire d'un Américain, métis, mais qui est totalement semblable à un blanc, dont le petit frère, noir, adolescent, s'est fait choper, lyncher, dans des conditions absolument atroces, et lui, celui qui a passé la ligne, en quelque sorte, il décide de se venger. Et le livre est le récit de cette vengeance. C'est un livre assez dur, un livre extrêmement pas convenable, et dont le titre, que vous aurez déjà reconnu rien qu'à m'écouter, s'appelle
« J'irai cracher sur vos tombes ».
Et c'est par ce bouquin qu'il a fait paraître sous un faux nom, comme s'il n'en était que le traducteur, que Boris Vian est resté le plus célèbre. Et il n'aimait pas tellement ça, parce que les bouquins qu'il a écrits de lui-même, si tu veux, évidemment, il avait beaucoup plus d'estime pour cela. Et comme il est resté très présent dans l'esprit des musiciens et de pas mal de gens, le grand orchestre, où je me trouvais du temps de mes jeunes années, mais quand même presque 15 ans après la mort de Boris Vian, avait décidé de lui rendre hommage, et Jean Rottman, notre chef, avait composé un morceau qu'il a appelé
« J'irai cracher sur vos trompes ».
Ouais, bah c'était un big band, il y avait beaucoup de trompes, de pavillons, enfin, etc. Et c'est par cet hommage à Boris Vian, qui était présenté au concert comme « Voici un morceau irrévérencieux dédié à quelqu'un de très irrévérencieux », que nous terminons cette émission « Souvenir sur Boris Vian ».
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.